Petit préambule activiste. Chômage, comme si plein emploi était le seul idéal. Chômage de masse, comme si un seul chômeur ne portait pas une masse d'angoisse. Gagner ou perdre, comme si on ne pouvait rien faire d'autre. Écart croissant entre riches et pauvres, comme si cet écart n'était pas creusé par les uns sur le dos des autres. Guerre et terrorisme, comme si l'effroi n'était pas monté vers nous du fond de notre paix confortable. Catastrophe technique et naturelle, comme si on pouvait encore distinguer. Démantèlement des services publics, comme si les services n'étaient pas une marchandise de pointe. Choc de civilisation, comme s'il n'y en avait pas une seule éplorée de sa propre violence. Éboulement des valeurs, comme s'il en avait d'autres que monnayables. Religion meurtrière, comme si le meurtre n'était pas déjà rituel. Politique corrompue, comme s'il n'était pas déjà rompu. Article vibrant pour une démocratie retrouvée, comme si on l'avait jamais retrouvée. Pétition pour solidarité, fraternité, justice, comme si c'était affaire de paraphe. Arrêtons ces discours courus d'avance. Tout n'est-il pas déjà passé à la trappe ? Banalité de plus. Alors on peut commencer. Mais ne vous contentez pas de lire. Faites quelque chose. Introduction. Dans un temps où toute humanité tend à se perdre, ces mots surgissent à l'improviste d'un article consacré à un poète dans une revue de poésie qui est parue au début de décembre 2015. Jean-Paul Auxemery dans Poésie. En prenant le temps de feuilleter revues et magazines du moment, j'assemblerai vite un large recueil de la même frappe. Je pense irrésistiblement à Freud qui, il y a environ 85 ans déjà, écrivait que l'humanité avait désormais les moyens de se détruire. Le sentiment d'un désastre persiste et progresse, c'est même le seul progrès que nous semblons faire, nous, les piétons fatigués d'un chemin qui semble bien se perdre dans des broussailles sous lesquelles l'histoire est étouffée. Ce qui ne murmure plus qu'à peine derrière ce long lamento traîné sur un monde immonde, expression rebattue depuis 30 ans, c'est la question « que faire ?». Seulement la question, car on ne songe plus à la moindre véritable réponse, même si les journaux de toutes sortes regorgent d'analyses informées et de conseils avisés. Le comble de notre désarroi, c'est que nous n'osons même plus poser la question. Tout se défait, tout se refait peut-être tout autrement, à l'écart, mais rien ne nous permet, à nous, les tard venus, comme disait Nietzsche, à nous, les hommes du soir, les occidentaux, de poser une question dont le concept même nous échappe, celui d'une action conduite dans un but précis, avec des moyens maîtrisés. Le délabrement des États est celui des partis ou en général des forces œuvrant à s'emparer d'eux, leur domination par des puissances économiques et techniques, le remodèlement planétaire des rôles, des modèles, des rapports, ne laisse pas percevoir de repères pour l'action. Fini le temps où des mouvements de classe ou de génération, de libération populaire, nationale, culturelle, savaient à quoi accrocher des plans ou situer des objectifs, comment se doter de force. Les révoltes les plus radicales, oh ce mot si empoussiéré, sont les plus idéalistes et irréalistes. Les appels les plus exigeants sont les plus rêveurs. Au déferlement de violences fanatiques répondent des postures vertueuses et guerrières auxquelles il est aisé de voir que nul ne croit, pas même ceux qui les adoptent. Ce n'est sûrement pas un hasard si déjà en attendant Godot, on se demandait « qu'est-ce qu'on peut faire ?». Un peu plus tard, chez Godard, une fille chantonnait « qu'est-ce que je peux faire ? Je sais pas quoi faire ». Godot, celui qui n'arrive pas, Godard, celui qui dit « adieu au langage ». Telles auront été nos formules d'intronisation une fois l'Europe déglinguée et emportée dans un nouveau cours des affaires du monde. Une fois le mot « communisme » laissé en plan avec toute sa charge désamorcée, une fois l'Europe transformée en une ironique communauté de marché, une fois les besoins énergétiques exigeant des affrontements, une fois les libérations coloniales accaparées par des dictateurs et récupérées par les anciens colons, une fois l'impérialisme remanié et reterritorialisé, le vieil Occident se mettant à peiner pour conserver ses places, une fois les pensées de l'histoire, de l'humain et du sens s'étant elles-mêmes convoquées au tribunal de leur raison. Rien d'étonnant si le faire, l'action, la production, la mise en œuvre ou l'exécution devenait incertain de lui-même. La réalisation est devenue si problématique qu'il a pu sembler à certains que le réel lui-même venait à manquer, ou bien qu'il n'avait plus que la mince consistance des objets rapportés à un sujet calculateur. Le réel pourtant ne saurait s'évanouir ni se dissiper en images, c'est lui au contraire qui se fait valoir aujourd'hui. Il se fait valoir d'une valeur qu'aucune évaluation ne peut envisager. Nous devons savoir que toute impuissance théorique est elle-même le témoignage d'une perception réelle, la saisie d'un commencement radical, d'une nouvelle forme d'organisation et d'existence politique irréductible à toute réduction théorique de fondement et de déduction, la saisie d'un fait irréversible de l'histoire. Ces lignes d'Althusser portent quelques marques d'époque. La métaphysique du commencement et celle conjointe de la radicalité pourraient menacer, mais l'important est la conscience vive du témoignage que porte une impuissance. Quelque chose résiste aux compréhensions déjà formées. Un fait vient heurter les idées du faire. Il résiste parce qu'il résiste et sans savoir encore au nom de quoi. Comme l'écrit Alexandre Garcia Duttmann, la résistance finit toujours par revenir à une intraitable tautologie. Elle ne fait que résister. Que faire ? Il me semble qu'il y a sans hésiter deux réponses qui s'imposent en se complétant l'une l'autre. La première, il faut changer la question. La seconde, nous sommes déjà en train de le faire. Oui, de le faire, ici même, par écrit. Non pas l'écrit d'un discours, mais la pratique d'un travail de pensée qui est action, qui est même l'action dont nous avons le besoin le plus urgent, et qui du reste est déjà en train de se faire en plusieurs lieux, de plusieurs écritures ou de plusieurs voix. Au que faire désemparé et d'avance découragé, je ne réclame pas qu'on s'oppose comme si je voulais remonter le moral des troupes. Non, je dis simplement que nous faisons déjà. Non pas que c'est fait, bien sûr, qu'on s'est fait, c'est fini, nous le savons. Mais c'est en train de se faire, sans aucun doute. Sans même parler de toutes les actions, initiatives, luttes, engagements grands et petits qui se font, parfois au risque de l'activisme, sinon de l'agitation, mais souvent dans une ferveur discrète, patiente, obstinée. C'est en train justement parce qu'il ne s'est jamais vu qu'un comble de désarroi ne produise pas aussi des perceptions, comme dit Althusser, et des exigences à leur mesure. Il s'agit en vérité de comprendre à quel point quelque chose se fait. Quelle mutation profonde est en train, quelle métamorphose décisive de l'histoire du monde ou des mondes, des plurivers cosmiques, poétiques, praxiques, théoriques, spirituels. Ou plutôt, pas même quelle mutation, puisqu'elle est seulement en train et ne sera un peu intelligible que dans au mieux 2 ou 3 siècles, mais au moins qu'il y a mutation. C'est loin d'être une première dans l'histoire, mais c'est la première qui se sait comme telle avec autant d'acuité, parce qu'elle succède à une longue habitude d'histoire prévue, anticipée, visée dans sa réalisation. Nous éprouvons donc d'autant plus les secousses qui déjouent nos attentes et dérangent nos accoutumances. Mutation ne signifie ni retour, ni abandon, ni laisser-faire. Cela engage de l'imprévu et de l'imprévisible, cela excède donc les possibles déjà repérés. Cela expose certainement à l'impossible, c'est-à-dire à ce qui défie toute identification, toute reconnaissance, toute assimilation. Cela demande tout particulièrement d'ouvrir des chantiers sur les lieux mêmes du désarroi et de l'impuissance. Sur le lieu donc du faire et sur celui de la politique, puisque c'est d'elle toujours que nous attendons et exigeons le faire, l'effectivité de l'action décidée. Si nos attentes sont déçues, ce n'est pas que les acteurs politiques soient mauvais. Ils sont ce qu'ils peuvent être puisqu'ils sont d'emblée engagés dans un trompe-l'œil. On leur fait faire et eux ne font en gros qu'exécuter. Exécuter quoi ? Ce qu'une machine énorme tente à réaliser, la production d'un ensemble à la fois total et infini, totalité en expansion interminable d'une circulation des forces et des formes, des informations et des conformations, production doublée par la multiplication elle aussi interminable d'une équivalence générale de toutes choses et de tous êtres mesurés par elle-même, par sa convertibilité inépuisable en sa propre puissance. Au fond, le capitalisme représente la seule tentative effective de produire un second monde qui serait tout pareil au premier, comme disait Descartes, et pourtant foncièrement distinct. Un monde du remplacement du monde, c'est-à-dire de tous les mondes possibles, par un monde second, comportant en lui-même sa propre fin. À la seule réserve que cette fin s'avère elle-même sans fin ou infinie au sens interminable et épuisant. L'ouverture de l'infini dans le fini a été la mutation décisive du monde antique. L'infini s'est ouvert en deux, l'interminable et l'absolu. La production et l'adoration. Production de biens, appropriation. Adoration de rien, extase et déprise. Non sans que les deux aspects se touchent, se contaminent, s'embrouillent jusqu'à la confusion, dissension interne de l'Occident se diffusant au monde entier, la confusion peut-être est à son comble et va vers sa décomposition. Mais nous ne nous débarrasserons pas de l'intersection entre fini et infini, croisée, coupe, blessure et suture. Ici, je n'avancerai pas plus dans cette direction métaphysique, ne perdons pourtant pas de vue qu'en dernière instance, c'est de ça qu'il s'agit. La justice sous toutes ses formes, envers les existences affamées, dominées, liquidées, exploitées comme envers les vies saturées, épaissies, abruties, ne se peut sans que, d'une manière ou d'une autre, on en passe par une pensée de l'infini. Car la justice est infinie. Derrida l'a dit indéconstructible. Or, s'il s'agit de faire, c'est évidemment de faire justice. N'importe quel faire a affaire avec la justice. Il la fait, la défait ou la contrefait. Les fondamentalismes, qu'ils se réclament d'un dieu ou d'une loi naturelle, d'un commandement suprême ou des prescriptions de la concurrence, invoquent forcément une justice. Or, le point névralgique se situe exactement ici. La justice est sans fondement, elle les transit et les effondre tous. Le paradoxe de la civilisation occidentale, cette civilisation dont la civilité ou la culture fut comme d'emblée indissociable d'une expansion illimitée, consiste dans l'effondrement répété de ce qu'elle fonde toujours à nouveau. Elle est issue d'un bouleversement des formes établies, empire théocratique ou culture locale, régime défini d'appartenance et d'observance, et elle a reçu en partage la tâche de fonder en tant que telle, sans fondation disponible. Elle a donc à la fois tout établi à neuf et mis au jour l'infini du fondement. Elle a fait la cité, la police, en montrant sa fragilité. Elle a fait le droit en l'identifiant à sa propre interminable invention. Elle a fait un dieu retiré de toute identité sacrée. Elle l'a aussi reconverti en plusieurs idoles furieuses et elle s'est forgé un peuple bouc émissaire de ses propres défauts. Elle a représenté la forme humaine, Mimesis, en montrant combien elle est son sans modèle. Elle a raconté des origines inassignables, chasmes, atomes, vides. Elle a calculé l'infinitésimale. Elle a bouclé le tour du monde en révélant le silence éternel des mondes. Elle a fait régner une équivalence générale où tout vaut tout et donc rien. Elle a identifié des sciences gigantesques autour d'un non-savoir abyssal. Bref, cette immense culture sortie d'une pensée de creatio ex nihilo s'est frayée une voie vers une decreatio in nihilum. Sans doute, cette civilisation est-elle parvenue au point où elle s'expose clairement, sans échappatoire possible, à son propre paradoxe. Ce point se nomme nihilisme et c'est de lui qu'il s'agit de partir dans les deux sens de l'expression. Il faut aller plus loin, mais en partant de ce point même et non en s'évertuant à le recouvrir de supposés fondements de secours. Humanisme, socialisme, spiritualisme et toute la série des ismes dont nous sommes capables. Le temps presse, parce que la tâche est si longue. Pris dans un mouvement qui a déjà commencé à déplacer les montagnes, les mondes, les forces et les formes à l'instar de ce qui régulièrement vient recreuser et remodeler le lit du fleuve, nous éprouvons une urgence, celle de faire et pour ce faire de penser. De peser le poids de nos représentations du faire et de leurs instances, il y faut du temps. Il faut prendre le temps dans le temps qui presse. Il faut se baigner dans le fleuve qui n'est jamais le même, mais en se baignant, il faut éprouver le remuement des fonds et le bouger des rives, la force du courant, et tâcher de garder à l'esprit la mer où ça se jette au loin. Jean-Luc Nancy, que faire ?